France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 13 novembre. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un nouveau recul du gouvernement pour tenter de faire baisser la tension sociale. À 3 semaines de la journée de mobilisation du 5 décembre, la mesure qui offrait la possibilité aux supermarchés d'ouvrir jusqu'à minuit sans les compensations habituelles a été repoussée. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Vivre et aller un peu mieux 4 ans après les attentats de Paris, témoignage de Caroline blessée au Bataclan. La rencontre Trump-Erdogan à Washington sur fond de sentiments anti-américain de plus en plus perceptible en Turquie, l'espoir d'une greffe pour les diabétiques et la lutte contre l'oubli, obsession de Christian Boltanski dont l'exposition Faire son temps débute aujourd'hui à Paris.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
4 ans après les pires attentats qu'ait connu la France depuis la Deuxième Guerre mondiale, quel est le niveau de la menace aujourd'hui? Est-elle en train de changer de nature? Que faire des djihadistes qui vont bientôt sortir de prison? Beaucoup, beaucoup de questions à poser à Laurent Nunez. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa, 8h20 dans le grand entretien de la matinale, on parlera de l'hôpital aujourd'hui avec l'infirmière Tiphaine Morvan et le chef de service en pédiatrie Rémi Salomon, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
France Inter.
La convergence des luttes, vieux slogan pour les uns, fantasme pour les autres et risque réel ou supposé pour le gouvernement qui a donc décidé de reculer sur le travail de nuit dans les commerces d'alimentation. Il faut dire que la période est chargée socialement à la veille de la journée de mobilisation dans les hôpitaux, à 3 semaines du début de la grève dans les transports, 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes et sur fond de grogne des agriculteurs, des étudiants et des enseignants. La mesure devait être examinée ce matin en Conseil des ministres. Elle prévoyait donc d'autoriser supermarchés et supérettes à ouvrir jusqu'à minuit partout en France en supprimant la notion d'heure de nuit entre 21h et minuit et les avantages qui vont avec. Mesure décidément trop difficile à défendre en ce moment, Karine Bécard.
C'est une mesure qui était censée passer inaperçue. Permettre aux commerces alimentaires d'ouvrir jusqu'à minuit et surtout envisager de supprimer pour les salariés les heures de nuit. La plupart des députés de la majorité à l'Assemblée n'en avaient pas été informés. Il fallait être l'ancien ministre en charge de l'agroalimentaire, le député socialiste Guillaume Garot, pour être au courant de ce qui était en train de se préparer.
Chasser le naturel, il revient au galop. Et le naturel, c'est quoi? Malheureusement, pour ce gouvernement, on le voit en tout cas, c'est d'être toujours pour les premiers de cordée.
Et c'est probablement ce qui a poser problème au gouvernement. Difficile, pour ne pas dire impossible, 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes, d'assumer ouvertement de telles dispositions. Donc le ministère du Travail a promis une concertation, mais pour le député LR Fabien Di Filippo, cela prouve surtout que le gouvernement, coincé, a désormais du mal à avancer.
Il n'y a plus vraiment de cap, il n'y a pas eu de réforme d'ampleur réelle depuis 1 an ici à l'Assemblée nationale, il faut être clair.
Et les semaines qui viennent s'annoncent effectivement délicates. Hier soir, des étudiants s'en sont pris au ministère de l'Enseignement. Demain, ce sont les personnels hospitaliers qui ont décidé de se mobiliser en attendant les cheminots et les agents de la RATP le 5 décembre pour une grève illimitée.
Le gouvernement va donc ouvrir une période de concertation d'au moins 6 mois avec les syndicats sur cette question du travail de nuit dans les commerces. Dominique Seux y reviendra à 8h moins le quart. Les étudiants ont donc décidé de leur côté de se rallier au mouvement du 5 décembre contre la réforme des retraites. Hier, la mobilisation contre la précarité a donné lieu à quelques incidents. Une grille du ministère de l'Enseignement supérieur a donc été forcée à Paris et à Lille. Une conférence de François Hollande a dû être annulée.
Il est 7h04, il n'y aura pas de concert ce soir au Bataclan.
La salle de spectacle restera fermée 4 ans après la soirée de terreur à Paris, ponctuée d'attaques djihadistes au Stade de France, à la terrasse de café et de restaurant dans les 10e et 11e arrondissements et de l'attaque donc lors du concert de Eagle of Death Metal. Bilan 130 morts et des centaines de blessée. Caroline était au Bataclan ce soir-là avec son mari qui a été tué. Elle a été blessée et si elle va mieux aujourd'hui, c'est au prix d'un travail permanent. Daniel Messager l'a rencontrée.
C'est grâce à une combinaison d'antidépresseurs et de techniques de
de psychothérapie comportementale que Caroline a pu reprendre pied.
Quand j'ai des crises d'angoisse que je sens venir, j'ai appris maintenant à savoir m'isoler, me dire voilà, tu n'es pas au moment de l'attentat, tu n'es pas en train de revivre ça. Pour essayer de dissocier en fait les sensations que j'ai eues ce jour-là et ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Par exemple, je ne sais pas si ça m'est arrivé ici, je sens la chaise, je peux toucher la table et ça nous réancre en fait.
Pour affronter le quotidien, elle a appris des techniques d'exposition, visualiser une bouche de métro sur photo, puis y rentrer, puis monter dans le métro, avec un suivi permanent de sa psychiatre qui lui donnait pour chaque situation des exercices à faire.
Elle me dit, ben, par exemple, ça serait bien que vous alliez au cinéma, même si vous n'arrivez pas à rentrer dans la salle de cinéma, vous allez devant le cinéma, vous regardez quel film vous intéresse, tant que vous ne ressentez pas d'angoisse, vous restez.
Mais les salles de concert, c'est toujours pas possible.
Non, c'est toujours pas possible.
Le compte à rebours de la date anniversaire a commencé dès début octobre, mais elle sait maintenant comment se protéger.
J'ai des mécanismes de défense. Je pose un jour de congé pour être sûre de ne pas avoir à travailler. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je n'écoute pas la radio. Moi, je ne pourrais pas le vivre toute seule, ça serait trop horrible.
Alors, la famille de Caroline vient à Paris, tous se retrouvent dans un lieu calme. L'année dernière, ils s'étaient longuement promenés dans le bois de Vincennes.
D'autres témoignages sont à lire sur franceinter.fr et tout au long de la matinée, Nicole Belloubet, Christophe Castaner, Laurent Nunez et Anne Hidalgo rendront hommage à Paris aux victimes des attentats. Laurent Nunez, qui, rappelons-le, sera l'invité de Léa Salamé à 8h10. Le ministre de l'Intérieur s'est lui rendu hier en fin de journée au Teille, en Ardèche, au lendemain du séisme qui a provoqué de gros dégâts, notamment dans le hameau de la Rouvière. Une visite éclair suivie par Willy Moreau.
La visite a duré une dizaine de minutes en tout, le temps pour le ministre d'être interpellé par cette habitante.
On a hâte de rentrer chez nous, hein. Ça là c'est tout ce qu'on demande.
Christophe Castaner prend le temps de répondre à ses inquiétudes, notamment face au manque d'experts sur la commune.
Deux experts ou trois experts pour 200 foyers touchés, c'est pas normal quoi.
Huit équipes différentes qui vont venir, qui vont renforcer et qui vont faire le deuxième niveau d'analyse. Les pompiers font une première analyse visuelle et disent là il y a une vraie difficulté. Et donc s'ils ont un doute, il ne faut pas réhabiter. Voilà, ça c'est la règle. Et ensuite viendront les experts.
Le ministre poursuit rapidement, s'attarde auprès des bénévoles en ligne au fond du gymnase. Mais sa visite laisse un goût amer à Enda, une sinistrée.
C'est un geste qui reste très superficiel. Et c'est pas souci de nous. On n'a pas senti ce côté humain, si j'ose dire.
Enda et une soixantaine d'autres personnes ont repassé la nuit dans le gymnase du Teille, mais Christophe Castaner l'a répété en marge de sa visite. Tous les habitants auront une solution d'hébergement pérenne ou temporaire dès ce soir.
Et quant à la centrale nucléaire du Cruas, elle a été arrêtée au moins jusqu'à vendredi. Pour l'heure, aucune anomalie n'a été détectée.
Il est 7h07, Agnès. La Bolivie a une présidente par intérim.
Il s'agit de la sénatrice d'opposition Jeanine Agnès, deuxième vice-présidente du Sénat, une avocate de 52 ans qui doit nommer un gouvernement et qui a promis d'organiser des élections dans un délai de 3 mois. En exil au Mexique, Evo Morales dénonce un coup d'État. Les violences depuis l'élection présidentielle ont fait 7 morts selon un bilan officiel. Une rencontre au sommet aujourd'hui à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, alors que dans la société turque, la défiance à l'égard de Washington atteint des sommets. Reportage en Turquie d'Anne Handler.
Ces 3 dernières années, le président turc n'a cessé de durcir son discours contre l'Occident, notamment les États-Unis. Les motifs de rancœur sont nombreux, à commencer par le soutien américain aux forces kurdes en Syrie. Mais si Recep Tayyip Erdogan se permet chaque semaine des tirades anti-Washington, c'est qu'il sait que ce discours est gagnant politiquement. Même ses opposants l'approuvent. Oktay est épicier à Istanbul.
Je ne soutiens pas le gouvernement au pouvoir dans mon pays, mais s'il y a un point sur lequel je le soutiendrai toujours, c'est sur le fait qu'il faut tenir tête aux États-Unis.
Selon un sondage annuel de l'université Kadiras, 20% des Turcs considèrent les relations avec Washington comme le principal problème de leur politique étrangère. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Plus de 80% des sondés pensent même que les États-Unis sont une menace pour la Turquie. Erjan, un vendeur de voitures.
L'Amérique soutient tous les ennemis de la Turquie, que ce soit les auteurs du coup d'État de 2016 qui se promènent librement aux États-Unis ou les forces kurdes en Syrie qui ont reçu des tonnes d'armes américaines. Erdogan a l'air d'avoir de bonnes relations avec Trump. Le problème, c'est l'ambiance anti-Turquie qui règne à Washington, en particulier au Congrès.
Un sentiment qui risque de s'exacerber si les sénateurs américains, à la suite des élus de la Chambre des représentants, sanctionnent la Turquie pour son offensive en Syrie. Anne Handler, Istanbul, RFI pour France Inter.
Aux États-Unis encore, début aujourd'hui des auditions publiques dans l'enquête pour impeachment lancée par les démocrates contre Donald Trump. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. En bref, encore une aqua alta historique à Venise. Si les images de touristes pataugeant place Saint-Marc sont relativement fréquentes, le niveau de
de ces derniers jours est sans précédent depuis plus d'un demi-siècle. Un habitant est mort électrocuté et des vagues déferlent sur la cité des Doges emportant les passerelles en bois le long du Grand Canal. Un espoir à présent pour les malades qui souffrent de diabète sévère. Une étude française sur 10 ans montre que les greffes ont de bons résultats. Il s'agit de cellules du pancréas qui fabriquent de l'insuline, on les appelle les îlots, prélevées sur un donneur décédé et greffées donc sur des patients diabétiques chez qui ces îlots justement n'existent plus. Véronique Julia.
Les patients en question sont des diabétiques de type 1. Une maladie auto-immune a détruit les cellules de leur pancréas qui fabriquent l'insuline, cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Ils sont donc obligés de se faire plusieurs fois par jour des piqûres d'insuline. Problème, au bout d'un certain nombre d'années, malgré les piqûres, le diabète devient instable. Les patients peuvent faire des comas très graves, voire mortels, et leur vie quotidienne devient très compliquée. C'est à eux que s'adressent ces greffes qui se démocratisent depuis le début des années 2000. Dans cette étude, on a suivi 28 patients greffés. 10 ans plus tard, pour la plupart, les îlots greffés fonctionnent bien et les patients n'ont presque plus besoin de piqûres. Le professeur François Patou est chirurgien, chercheur à l'INSERM sur le diabète.
10 ans après la greffe, 3/4 des patients ont encore une greffe fonctionnelle, c'est-à-dire ils bénéficient encore de la greffe. Et puis pour 1/4 d'entre eux, c'est non seulement un meilleur équilibre, mais plus du tout d'injection d'insuline. Pour ces patients qui étaient très invalidés par les hypoglycémies, c'est une transformation de la vie quotidienne.
Ces greffes ont malgré tout 2 inconvénients. D'abord, elles nécessitent la prise d'anti-rejet, c'est un traitement lourd avec des effets indésirables nombreux. Pour cette raison, les greffes sont encore réservées aux cas les plus sévères. Ensuite, ces greffes nécessitent des donneurs et on en manque. La recherche travaille donc aujourd'hui à produire ces îlots à partir de cellules souches pour en avoir un jour de façon illimitée.
Une avant-première du film de Roman Polanski, J'accuse, annulée hier soir à Paris en raison d'une manifestation de féministes. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. L'oubli, la disparition, hante l'œuvre de Christian Boltanski, l'un des artistes plasticiens français les plus reconnus dans le monde. Son œuvre fait l'objet d'une exposition rétrospective au Centre Pompidou à Paris. Son titre, Isabelle Pasquier, Faire son temps.
Bouleversant, ces centaines de visages en noir et blanc, éclairés par une lampe de bureau ou collés sur des boîtes en métal rouillé. L'exposition est une errance poétique, existentielle, au milieu de ces inconnus, ces disparus qui nous regardent. Toute l'œuvre de Christian Boltanski est hantée par la disparition.
On peut dire que toute ma vie n'a été qu'un ratage parce que depuis le début, j'ai essayé de lutter contre la disparition et la mort et naturellement, c'est totalement impossible. Tout disparaît. Mais on peut protester contre l'oubli.
L'art comme un cri de révolte contre l'oubli, émotion devant toutes ces colonnes de boîtes rouillées, comme si chaque vie pouvait se résumer à ça, une petite boîte.
Chaque vie peut se résumer à une petite boîte, mais aussi il y a une œuvre qui sont deux dates, et entre ces deux dates, il y a un petit tiret, la date de naissance et la date de mort, et oublié, il y a un petit tiret, c'est ça notre vie.
Autre choc, une montagne d'habits noirs.
C'est un vrai mémorial pour des mineurs. J'ai demandé d'avoir leur livret de travail. Il y a beaucoup d'enfants, parce que les enfants étaient engagés à partir de 13-14 ans, et à la fin, il y a le soulagement, il y a l'après. C'est un paysage et puis des petites clochettes qui bougent, agitées par le vent. C'est dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. On est tranquille, on est un peu hors du monde.
On ressort de cette exposition le cœur en miettes, la tête pleine de questions. Christian Boltanski ou la tentative de transcender notre finitude.
Faire son temps au Centre Pompidou à Paris, c'est jusqu'au 16 mars.
Merci Agnès Soubiran.